accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Հայլու դեմը կանգնած սպամադեն ձերը Այսօր օրնակով թողել ես գործերդ Միած սելֆի աչից սենյակդ բարդակ Instagram, Facebook, 18 plus hashtag
Bonjour à tous et à toutes. Il représente un immense espoir pour les Arméniens. Il y a quelques semaines encore, il était absent de l'échiquier politique. Demain, il pourrait se voir nommé Premier ministre du pays. Nikol Pachinian, ancien journaliste, à l'origine du plus vaste mouvement de protestation depuis l'indépendance du pays il y a 27 ans. L'Arménie est minée par le chômage, des écarts de richesse monumentaux et une corruption endémique. Le mouvement de protestation qui a déjà poussé l'ancien président Premier ministre Serge Sarkissian à la démission, a débuté de façon tout à fait confidentielle fin mars à Gyumri, la seconde ville du pays située près de la frontière turque, une ville l'une des plus riches du temps de l'URSS, aujourd'hui l'une des plus pauvres d'Arménie. Anastasia Bekio s'y est rendue.
Un beau soleil éclaire la place centrale de Gyumri. Un groupe de touristes prend des photos du monument dédié à Vardan Mamikonian, l'un des plus grands chefs militaires et spirituels de l'Arménie ancienne. Un jour calme et ordinaire qui ressemble à ce 31 mars où Nikol Pachinian, simple député d'opposition, entamait sa marche vers Yerevan. Tamara Chikhinashvili, gérante du café donnant sur la place, était aux premières loges.
Je l'ai vu, il marchait avec son téléphone, mais à ce moment-là, je ne savais ni le pourquoi, ni le comment de tout ça. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Ensuite, à partir du moment où ça a commencé à Yerevan, là j'ai compris. Mais là, il était tout seul. Il marchait tout en se filmant avec son portable. Il racontait quelque chose.
Nikol Pachinian filme et commente sa marche sur Facebook. Au départ de Gyumri, il ne porte pas encore son t-shirt kaki et n'a pas encore fait pousser sa barbe, mais il a déjà son sac à dos qu'il ne quittera quasiment plus. Au fil des jours, il gagne en notoriété, se construit une légende et se rallie des partisans comme Isabella Abgarian, professeure de français au chômage.
Après un petit échange d'opinions, et après une soirée autour du feu, en mangeant de la pomme de terre, donc j'ai compris que nous avons justement une chance réelle de faire des changements avec Pachinian, parce qu'il avait un plan qui pouvait marcher, un projet qui pouvait marcher. Ce que j'ai compris, c'est qu'il veut aller jusqu'à la fin, parce que nous avons eu d'autres leaders d'opposition qui nous ont fait aller à la maison. Mais Pachinian, j'ai compris qu'il est très sérieux. Et puis je connais très bien son équipe, la jeunesse du contrat civil. C'est une équipe brillante, très créative. Les actions qu'ils ont organisées étaient extraordinaires, pas seulement pour l'Arménie, mais pour tout le monde. Le blocage des rues, des établissements, tout ça.
Des blocages qui ont atteint leur apogée mercredi dernier dans tout le pays, au lendemain du premier vote au Parlement. Comme Yerevan, Gyumri a été paralysée. La deuxième ville du pays a été l'une des plus actives dans le mouvement de contestation. À la présidentielle de 2013, Serge Sarkissian n'y avait récolté que 27% des voix. Aramaï Sarapétian, juriste, a participé à toutes les manifestations contre le pouvoir.
À Gyumri, le parti du pouvoir n'a jamais remporté d'élection. On est comme ça, c'est notre mentalité. On n'a pas peur et on n'a jamais eu peur. Notre niveau de vie est encore plus mauvais que dans les autres régions. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde les visages des gens, on voit déjà une toute autre image de celle qu'on avait il y a un mois. La situation a déjà changé. Les gens se sont mis à croire en l'avenir.
Derrière l'église du Tout-Sauveur, en pierre volcanique, noire et orange, un dôme en ruine posé à même le sol. C'est le dernier vestige de l'édifice qui s'est effondré le 7 décembre 1988. Le tremblement de terre a fait 25 000 morts dans la région et détruit la ville à 60%. Aujourd'hui encore, plusieurs centaines de familles vivent dans des abris provisoires. Le séisme n'a fait que renforcer les difficultés pour les habitants de la région et ça n'est sans doute pas innocent si Nikol Pachinian a choisi Gyumri comme point de départ de son mouvement. Membre du parti d'opposition Arménie Prospère, Arthur Khatchatryan était jusqu'à la semaine dernière gouverneur de la région de Chirac.
Ici, le niveau de vie est très inférieur au niveau de vie moyen du pays. La situation socio-économique est bien pire que dans le reste du pays. Donc on n'a pas été surpris de constater que le mouvement de contestation était plus actif ici qu'ailleurs. En plus de toutes ces difficultés, nous avons vu beaucoup de personnes s'exiler. Il y a eu une fuite des cerveaux. Les gens sont partis en Russie, au Kamtchatka, en Yakoutie, mais aussi en Europe, aux États-Unis. Ça fait beaucoup de monde.
L'activité tourne à plein régime dans l'usine textile de Gyumri. Des dizaines d'ouvrières derrière des machines tissent des collants blancs et des chaussettes. L'Entex est le plus gros employeur de la région. 400 personnes y travaillent, des femmes à 90%. Ces dernières semaines, les machines se sont tues à plusieurs reprises. Karen Gomtsian est le directeur de l'usine.
Nos ouvriers ont participé activement à ce mouvement à plusieurs reprises. Ils ont manifesté et ils ont fait la grève. Je suis très heureux que notre société et nos ouvriers aient montré qu'ils étaient capables de se battre pour leurs droits. On avait des commandes en cours, mais j'ai considéré que tout ça, c'était pour le mieux. Les blocages organisés dernièrement ont abouti à une paralysie de tout le pays. On a vu des files d'attente très longues à la douane, mais tout cela n'est pas très grave. L'essentiel est que le pays se remette sur les rails. On a beaucoup d'espoir, on veut de nouvelles élections, qu'elles soient propres et justes, et toutes les pertes que l'on a subies, je considère que c'est un investissement pour le futur.
Demain, Karen Gomtsian et ses employés auront les yeux tournés vers le Parlement de Yerevan où se jouera, ils l'espèrent, la dernière manche de cette révolution de velours.
Des cours de religion qui font polémique en Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Malgré les vives critiques, cette initiative de l'église orthodoxe serbe devrait se concrétiser dès la rentrée prochaine, Simon Rico.
C'est une initiative lancée il y a un an par l'église orthodoxe serbe qui prend corps. Les lycéens de Republika Srpska auront des cours de catéchisme à partir de la rentrée de septembre. Or, la Bosnie-Herzégovine est, selon sa constitution, un pays laïque et nombreux sont ceux qui jugent ce projet inadmissible. Il y a suffisamment d'églises et de mosquées pour que les fidèles puissent pratiquer leur religion, tonne par exemple Dragana Dardic, la directrice du comité Helsinki pour les droits de l'homme de Banja Luka, la capitale de l'entité serbe de Bosnie. Les autorités devraient plutôt se préoccuper de la fermeture de nombreuses écoles, des étudiants qui quittent le pays après leur baccalauréat, à moins qu'ils ne croient que le catéchisme ne les retiendra, ironise encore la jeune femme. Comme elle, de nombreux militants de la société civile demandent aux autorités de Republika Srpska de réfléchir à des alternatives. Ils considèrent en effet qu'outre leur atteinte manifeste à la laïcité, ces cours de religion contribuent aussi à exacerber encore les divisions communautaires qui minent la Bosnie-Herzégovine depuis son indépendance. En Republika Srpska, où la population est très majoritairement serbe, les cours de catéchisme déjà en place au primaire et au collège sont en grande partie dédiés à la religion orthodoxe, tandis que l'islam pratiqué par les bosniaques, le catholicisme pratiqué par les croates et le judaïsme sont très peu abordés. De fait, cet enseignement risque de contribuer davantage à la division entre les élèves au lieu de leur apprendre la tolérance et ces militants antinationalistes réclament donc un enseignement qui permettrait aux élèves de découvrir toutes les religions du livre. Il y a néanmoins peu de chances que les autorités de l'entité serbe, très liées à l'église orthodoxe, acceptent à leur requête.
Après Zurich, Berlin et Paris, c'est un incubateur hors norme qui vient d'ouvrir ses portes à Lyon, en France. Les entrepreneurs sélectionnés sont des réfugiés, des migrants ou des personnes qui lancent des projets liés à l'asile. Ce concept est porté par Singa, une association internationale qui milite pour une société plus inclusive. Daphné Castaldi s'est rendue sur place.
Ils sont 11 entrepreneurs dans la première promotion de Finkela à Lyon. La grande majorité a le statut de réfugiés et tous débutent leur entreprise. Birgit Vinquet est la coordinatrice de ce projet.
Alors Finkela, ça veut dire créateur en bambara. L'objectif de Finkela, donc, c'est d'accompagner des entrepreneurs réfugiés et non réfugiés d'ailleurs, à monter leur entreprise ou leur association. Et pour les personnes non réfugiées, l'objectif, c'est de monter des projets à vocation d'inclusion et de changement de regard sur l'asile. Au lieu de voir les gens comme un poids pour la société, aussi bien social que financier, on les voit comme une richesse et un apport de compétences. Et l'objectif, c'est de les valoriser au maximum, donc aussi par l'entrepreneuriat.
Parmi ces talents, certains ont des projets ambitieux dans le domaine médical, audiovisuel ou encore dans la gastronomie. Avec l'incubateur Finkela, ils apprennent notamment à se constituer un réseau, à maîtriser les codes pour vendre leurs concepts. C'est Nitiam Diawara à 32 ans, il est juriste de formation originaire du Sénégal et il se donne 2 ans pour réussir.
Alors mon rêve, c'est retourner au Sénégal, implanter mon incubateur avec un espace de coworking et essayer de créer, de booster un tout petit peu l'entrepreneuriat local au niveau du Sénégal.
À Aïcha Mohamed Saïd, elle, vient du Tchad, mais a vécu en Égypte et en Arabie Saoudite. Dans ces pays, elle a appris à cuisiner les plats du Sahel et du Sahara. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de Finkela, elle est devenue traiteur. Et en quelques mois seulement, elle a réussi à percer.
Il y a les plats comme les mandis, c'est qu'elle connaît par les Arabes du Golfe. Et il y a aussi les koucharis, qu'elle connaît par les Égyptiennes. Les koucharis, c'est un plat typique végétarien, base de riz et tomates, pâtes, lentilles. Et moi, je suis traiteur. On a besoin que quelqu'un nous dise, oui, allez-y, c'est une fierté. On fait quelque chose, on donne nous aussi les richesses.
Aïcha rejoindra bientôt le collectif de food trucks que l'incubateur Finkela met en place avec ses entrepreneurs traiteurs. En attendant, elle continue de suivre les formations. Ce jour-là, les incubés ont un atelier sur la posture commerciale. Parmi eux, Bonnie Magambo, cette infirmière du Rwanda, veut commercialiser un accessoire innovant pour les personnes sous dialyse.
Je vais apprendre, par exemple, comment on se porter devant les clients ou les patients. Alors, plein de choses.
À ses côtés, Aliza Monchi a créé l'association SOS Sud-Soudan pour protéger les droits des femmes et des enfants de son pays.
Ça fait longtemps que je pense à cette association. Ça fait au moins depuis mon retour de Soudan. La dernière fois que je suis allée, c'était en 2008. Et j'ai vu l'état de pays. Et je suis revenue tout de suite, mais le temps que je prenne la décision et je trouve des gens qui m'accompagnent, ça a pris du temps.
L'année dernière, sur 25 projets accompagnés par Finkela en France, 11 projets ont réussi à générer des revenus au bout de 6 mois d'incubation. Un modèle à développer dans d'autres villes d'Europe.
Comment vivent aujourd'hui les jeunes des banlieues françaises ? La question peut surprendre et pourtant, au-delà des clichés et des a priori, on connaît mal la réalité quotidienne de ces nouvelles générations. La journaliste Manon Kerwil-Brunel s'est immergée pendant un an dans une cité de Seine-Saint-Denis avec son guide Malek Dehoun, qu'elle utilise comme fil rouge de l'histoire. Ce qui frappe tout d'abord dans cette enquête, c'est cette jeunesse qui veut tout, tout de suite, comme Manon Kerwil l'a expliqué à Catherine Roland.
Au fil de l'enquête et de l'écriture, Malek et moi, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai choc générationnel entre ses parents arrivés dans les années 80 en France, lui qui est né dans les années 80, et les jeunes d'aujourd'hui d'une vingtaine d'années qui ne font plus péter les cités, qui sont beaucoup moins révoltés et beaucoup plus concernés par leur propre vie, comment ils vont s'en sortir, et ce besoin impérieux de gagner de l'argent.
Oui, c'est ce qu'ils disent hein, d'ailleurs. Nous, on est des bourgeois.
Ouais, c'est leur mot. C'était assez rigolo quand c'est sorti comme ça. Moi, j'ai commencé mon enquête au moment où il y a eu ce jeune qui avait reçu une matraque dans les fesses. Donc, c'était annoncé, voilà, comme de nouveau, les banlieues vont flamber, etc. Et dans ce quartier, rien n'a bougé. Tout était très calme. Et je suis partie de ça, aller voir les jeunes en disant, est-ce que vous, ça vous révolte? Non, ça ne nous révolte pas. En plus, il y a eu un arrangement à l'amiable après. Donc, ça les a confortés dans l'idée que finalement, avec de l'argent, on pouvait tout acheter. Et de se dire, de toute façon, c'est pas bon pour le business, les voitures qui crament. Il vaut mieux maintenir une impression de sécurité et de calme pour pouvoir se livrer à ce trafic de cannabis qui fait vivre une partie des habitants.
Ouais. On se dit, on va faire de l'argent très vite et puis on va retourner au bled. On va essayer de construire là-bas quelque chose.
C'est un discours que j'avais pas vraiment entendu avant où l'idée, c'est de dire qu'avant 40 ans, pour réussir sa vie, il faudra rentrer sur la terre des ancêtres, mais revenir en vainqueur, c'est-à-dire en ayant suffisamment d'argent ou d'idées de business ou d'entreprise pour retourner là-bas en faisant fructifier l'expérience, les études, l'éducation qu'ils ont reçue en France.
Alors l'argent rapide, le deal, le trafic de drogue, hein, c'est quand même le quotidien des cités, hein, vous l'avez constaté.
Dans la cité avec laquelle on a travaillé, effectivement, il y a un terrain où on vend exclusivement du cannabis. Ça aussi, c'était une chose que tous les habitants ont souligné. Il y a une tolérance pour ce trafic qui finalement voisine assez bien avec le quotidien des habitants, qui est aussi une garantie à la tranquillité. Ces jeunes se substituent à la police de proximité qui n'existe plus. Et donc, font en sorte qu'il n'y ait pas de vol de voiture, pas de caillassage, pas de tabassage. Encore une fois, ce n'est pas bon pour le business, ce qui leur permet donc de générer des bénéfices assez importants sur ce terrain de deal.
La mère est importante hein, la dans maman. Ce quartier. La maman oui. Est très très importante.
Oui, on lui a consacré un chapitre, effectivement, la Yema, comme on l'appelle dans le quartier, la maman. Effectivement, c'est un peu celle dont on craint quand même le regard, celle qui vous laisse jamais tomber, celle qui va vous voir au parloir.
Alors, il faut parler de la question des femmes hein, dans la cité, des jeunes filles. Ce que vous avez observé, c'est qu'il y a très peu de femmes dans les rues, à part les mamans qui vont faire des courses.
Les femmes ne traînent pas. quand j'interrogeais mes interlocuteurs masculins, du coup, sur cette absence, ils trouvaient ma question très surprenante en me disant, mais qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent ici? Elles n'ont pas à traîner. Elles vont à l'école ou elles vont au travail et puis elles rentrent chez elles. Ici, c'est un monde d'hommes. Et donc, pour rencontrer ces filles, effectivement, j'ai dû sortir de la cité.
Aller à Paris, par
aller
exemple.
À Paris, c'est effectivement beaucoup là où elles sortent, où elles s'amusent, où elles vivent loin de ce regard qui peut être parfois pesant de la communauté.
Il y a un QG que vous avez trouvé là-bas, c'est chez Abdel, le coiffeur, qui est installé depuis longtemps, lui, dans la cité. Pour lui, la mixité est morte.
Oui, c'est effectivement le constat qu'il en tire et il n'est pas le seul. Malek aussi l'évoque dans le dernier chapitre où il constatait que le vivre ensemble était fini. Et c'est aussi pour ça qu'on a utilisé ce terme de ghetto dans notre titre, c'est qu'on voulait raconter l'évolution en mal, encore une fois du point de vue des habitants, ces 20 dernières années où lui il se rappelait des grand-mères qui offraient des gâteaux pour Hanouka, des copains portugais avec lesquels on s'écharpait pour des matchs de foot, et qu'aujourd'hui les seuls nouveaux arrivants, ce sont les migrants qui arrivent dans la foulée du printemps arabe. Ce sont des hommes seuls et c'est les seuls qui s'installent en quartier. Il n'y a pas de nouvelles familles blanches qui arriveraient.
Alors il faut parler aussi du poids de la religion dans les cités, ce qui n'existait sans doute pas il y a 30 ans.
C'est pas forcément des jeunes qui connaissent mieux le Coran ou l'arabe d'ailleurs que leurs parents, mais c'est des jeunes qui revendiquent le droit de vivre, comme ils disent, plus près de Dieu que leurs aînés, qui passent par des choses qui sont très ostentatoires finalement. Aller à la prière du vendredi l'après-midi, c'est un rendez-vous à laquelle toute la cité répond. Et ce à quoi Abdel, le coiffeur, dit, mais allez à la salate de 6h du matin, vous verrez tout d'un coup, il y a beaucoup moins de monde dans la mosquée. C'est aussi des jeunes qui sont prêts à dépenser de l'argent pour aller faire le petit hajj, donc hors saison, qui coûte moins cher, la Omra, mais qui aussi, pour autant, ne renonce pas à des vacances un peu olé-olé à Pattaya.
La part du ghetto, la vérité sur les banlieues, est publiée aux éditions Fayard. Quitter la gare d'Ankara en Turquie pour se retrouver 24 heures plus tard à la frontière arménienne à l'est, voilà ce que permet le Doğu Ekspresi, le petit Orient Express turc. Le vénérable train sera bientôt remplacé par un TGV, ce qui explique peut-être un regain d'intérêt. 300 000 voyageurs l'ont emprunté en 2016, 40% de plus que l'année précédente. Anand Lauer.
Pour la plupart des Turcs, le Doğu Ekspresi, mot à mot l'Orient Express, n'évoque pas un train luxueux traversant l'Europe d'ouest en est et qui servi de décor à un grand roman policier. Moins glamour, mais tout aussi dépaysant, le Doğu Ekspresi des Turcs emmène ses voyageurs d'Ankara, la capitale située au centre de l'Anatolie, jusqu'à Kars, 24 heures plus tard et 1300 km plus à l'est, à la frontière avec l'Arménie. Cette ligne ferroviaire existe depuis des décennies et pourtant, ces deux dernières années, les Turcs semblent la redécouvrir, à en juger par le nombre de photos qu'elle suscite sur Instagram et par les chiffres officiels de la compagnie des chemins de fer, la TCDD. L'an dernier, 300 000 voyageurs l'ont emprunté, 40% de plus qu'en 2016. Cet engouement est surtout celui de jeunes citadins de l'ouest de la Turquie, avides d'aventures entre amis, de découvrir l'Anatolie et de beaux paysages, surtout lorsqu'ils sont enneigés. La ligne est donc très populaire en hiver, mais elle fonctionne toute l'année. Il faut aller vite pour prendre ses billets, épuisés dès leur mise en vente, à tel point que la TCDD a dû ajouter des wagons, passés de 5 à 11, pour ne pas faire trop de déçus. Si le train traverse les vallées de Sivas ou les montagnes d'Erzincan et d'Erzurum, il ne s'arrête que 5 minutes dans chacune de ces villes, lesquelles ne profitent pas vraiment du succès de la ligne. Le terminus, Kars, en revanche, voit arriver chaque jour des centaines de touristes qui visitent sa citadelle ou le site d'Ani, ancienne capitale du royaume d'Arménie, et ses églises légendaires. Mais le voyage lui-même reste l'attraction principale et ces jeunes passagers ont rapidement créé de nouvelles traditions, comme celle de décorer leur compartiment avec des guirlandes lumineuses, des bougies et des ballons, ou d'improviser des fêtes au milieu des wagons-lits. Puis de partager tout cela sur les réseaux sociaux, bien sûr.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver entre autres sur votre portable avec l'appli Pure Radio.